deux amoureux. Chaque semaine, je vous lis un chapitre de Fragments du discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 1977 son ouvrage sous une forme de dictionnaire, dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, et notamment « Les souffrances du jeune Werther » de Goethe, mais aussi sur des philosophes, les philosophes grecs, Diderot, Nietzsche et d'autres encore, et enfin sur son propre vécu. Cette semaine, altération, angoisse et annulation. Altération. Production brève dans le champ amoureux d'une contre-image de l'objet aimé. Au gré d'incidents infimes ou de traits ténus, le sujet voit la bonne image soudainement s'altérer et se renverser. Rusbrock est enterré depuis 5 ans. On le déterre. Son corps est intact et pur. Évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais il y avait seulement un petit point du nez qui portait une trace légère, mais une certaine trace de corruption. Sur la figure parfaite et comme embaumée de l'autre, tant elle me fascine, j'aperçois tout à coup un point de corruption. Ce point est menu, un geste, un mot, un objet, un vêtement, quelque chose d'insolite qui surgit, qui se pointe, d'une région que je n'avais jamais soupçonnée, et rattache brusquement l'objet aimé à un monde plat. L'autre serait-il vulgaire? Lui dont j'encensais dévotement l'élégance et l'originalité? Le voilà qui fait un geste par quoi se dévoile en lui une autre race. Je suis ahuri. J'entends un contre-rythme, quelque chose comme une syncope dans la belle phrase de l'être aimé, le bruit d'une déchirure dans l'enveloppe lisse de l'image. Telle la poule jésuite Kircher que l'on délie de l'hypnose par une légère tape, je suis provisoirement défasciné, non sans douleur. On dirait que l'altération de l'image se produit lorsque j'ai honte pour l'autre. La peur de cette honte, au dire de Phèdre, retenait les amants grecs dans la voie du bien, chacun devant surveiller sa propre image sous le regard de l'autre. Or, la honte vient de la suggestion. L'autre, au gré d'un incident futile que seule ma perspicacité ou mon délire saisissent, apparaît brusquement, se dévoile, se déchire, se révèle, au sens photographique du terme, comme assujetti à une instance qui est elle-même de l'ordre du servile. Je le vois tout d'un coup, question de vision, s'affairant, s'affolant ou simplement s'entêtant à complaire, à respecter, à se plier à des rites mondains grâce à quoi il espère se faire reconnaître. Car la mauvaise image n'est pas une image méchante, c'est une image mesquine. Elle me montre l'autre pris dans la platitude du monde social. Ou encore, l'autre s'altère s'il se range lui-même aux banalités dont le monde fait profession pour déprécier l'amour. L'autre devient grégaire. Une fois, l'autre m'a dit, parlant de nous, « une relation de qualité ». Ce mot m'a été déplaisant. Il venait brusquement du dehors, aplatissant la spécialité du rapport sous une formule conformiste. Bien souvent, c'est par le langage que l'autre s'altère. Il dit un mot différent, et j'entends bruire d'une façon menaçante tout un autre monde qui est le monde de l'autre. Chez Proust, Albertine ayant lâché l'expression triviale « se faire casser le pot », le narrateur proustien en est horrifié. Car c'est le ghetto redouté de l'homosexualité féminine, de la drague grossière qui se trouve révélée d'un coup, toute une scène par le trou de serrure du langage. Le mot est d'une substance chimique ténue qui opère les plus violentes altérations. l'autre. Maintenu longtemps dans le cocon de mon propre discours, fait entendre, par un mot qui lui échappe, les langages qu'il peut emprunter et que par conséquent d'autres lui prêtent. Parfois encore, l'autre m'apparaît assujetti à un désir. Mais ce qui fait alors tache en lui, ce n'est pas à mes yeux un désir formé, nommé, posé, bien dirigé, auquel cas je serais plus simplement jaloux, ce qui relève d'un autre retentissement. C'est seulement un désir naissant, une poussée de désir que je détecte chez l'autre sans que lui-même en soit bien conscient. Je le vois, dans la conversation, s'agiter, se multiplier, en faire trop, se mettre en position de demande à l'écart d'un tiers comme appendu à lui pour le séduire. Observez bien telle réunion. Vous y verrez ce sujet affolé, discrètement, mondainement, par cet autre, poussé à établir avec lui une relation plus chaleureuse, plus demandeuse, plus flatteuse. Je surprends l'autre, pour ainsi dire, en flagrant délit d'inflation de lui-même. Je perçois un affolement d'être qui n'est pas si loin de ce que Sade eût appelé l'effervescence de tête. Je vis le foutre s'exhaler de ses yeux. Et pour peu que le partenaire sollicité réponde de la même manière, la scène devient dérisoire. J'ai la vision de deux pans faisant la roue, l'un devant l'autre. L'image est corrompue, parce que celui que je vois tout d'un coup est alors un autre, et non plus l'autre, un étranger, un fou. Ainsi, dans le train de Biskra, Gide, cédant au jeu de trois écoliers algériens, a le temps pantelant devant sa femme qui feignait de lire, avait l'air d'un criminel ou d'un fou. Tout autre désir que le mien n'est-il pas fou ? Le discours amoureux, ordinairement, est une enveloppe lisse qui colle à l'image. Un gant très doux autour de l'être aimé. C'est un discours dévot, bien pensant. Lorsque l'image s'altère, l'enveloppe de dévotion se déchire, une secousse renverse mon propre langage. Blessé par un propos qu'il surprend, Werther voit tout d'un coup Charlotte sous les espèces d'une commère. Il l'inclut dans le groupe de ses copines avec qui elle papote. Elle n'est plus l'autre, mais une parmi d'autres. Et dit alors dédaigneusement, « Mes petites bonnes femmes !» Un blasphème monte brusquement aux lèvres du sujet et vient casser irrespectueusement la bénédiction de l'amoureux. Il est possédé d'un démon qui parle par sa bouche, d'où sortent, comme dans les contes de fées, non plus des fleurs mais des crapauds. Horrible reflux de l'image. L'horreur d'abîmer est encore plus forte que l'angoisse de perdre.
A source of heat and a source of heart. I would be a studio full of complicated art. If you were a fruit, you'd be a berry. You would be small and soft and sweet. I would be a pomegranate, impossible to eat. Would we be any happier. All I know is love's a one-man show. If you were a season, you'd be summer. You would be sweet nights and days. I would be the rainy one, full of hurricanes. If you were a sign, you'd be a warning. You'd be a cautious in the light. I would be the deviation, make you go wrong when you want to go right. Happier. Cleverer. All I know is love's a woman show.
Angoisse. Le sujet amoureux, au gré de telle ou telle contingence, se sent emporté par la peur d'un danger, d'une blessure, d'un abandon, d'un revirement. Sentiment qu'il exprime sous le nom d'angoisse. Ce soir, je suis revenue seule à l'hôtel. L'autre a décidé de rentrer plus tard dans la nuit. Les angoisses sont déjà là, comme le poison préparé. La jalousie, l'abandon, l'inquiétude. Elles attendent seulement qu'un peu de temps passe pour pouvoir décemment se déclarer. Je prends un livre et un somnifère, calmement. Le silence de ce grand hôtel est sonore, indifférent, idiot. Ronron lointain des baignoires qui se vident. Les meubles, les lampes sont stupides. Rien d'amical où se réchauffer. L'angoisse monte. J'en observe la progression. Comme Socrate devisant, moi lisant, sentais s'élever le froid de la ciguë. Je l'écoute se nommer, s'enlever, telle une figure inexorable sur le fond des choses qui sont là. Et si, pour que quelque chose se passe, je faisais un vœu. Le psychotique vit dans la crainte de l'effondrement, dont les psychoses diverses ne seraient que les défenses. Mais la crainte clinique de l'effondrement est la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé. Et il y a des moments où un patient a besoin qu'on lui dise que l'effondrement dont la crainte mine sa vie a déjà eu lieu. C'est Winnicott, le psychologue anglais. De même, semble-t-il, pour l'angoisse d'amour. Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu, dès l'origine de l'amour, dès le moment où j'ai été ravie. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissée, vous l'avez déjà perdue. » Annulation. Bouffée de langage au cours de laquelle le sujet en vient à annuler l'objet aimé sous le volume de l'amour lui-même. Par une perversion proprement amoureuse, c'est l'amour que le sujet aime, non l'objet. Charlotte est bien fade. c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte, tourmentée, flamboyante, montée par le sujet Werther. Par une décision gracieuse de ce sujet, un objet phallos est placé au centre de la scène, et là, adoré, encensé, pris à partie, couvert de discours, d'oraisons, et peut-être en sous-main d'invectives. On dirait une grosse pigeonne, immobile, tassée dans ses plumes, autour de laquelle tourne un mâle un peu fou. Il suffit que, dans un éclair, je vois l'autre sous les espèces d'un objet inerte comme empaillé pour que je reporte mon désir, de cet objet annulé, à mon désir lui-même. C'est mon désir que je désire, et l'être aimé n'est plus que son suppôt. Je m'exalte à la pensée d'une si grande cause qui laisse loin derrière elle la personne dont j'en ai fait le prétexte. C'est du moins ce que je me dis. Heureuse de m'élever en rabaissant l'autre. Je sacrifie l'image à l'imaginaire. Et si un jour vient où il me faut bien décider de renoncer à l'autre, le deuil violent me saisit alors. C'est le deuil de l'imaginaire lui-même. C'était une structure chérie, et je pleure la perte de l'amour, non de tel ou tel. Voilà donc l'autre annulé sous l'amour. De cette annulation, je tire un profit certain. Dès qu'une blessure accidentelle me menace, une idée de jalousie par exemple, je la résorbe dans la magnificence et l'abstraction du sentiment amoureux. Je m'apaise de désirer ce qui, étant absent, ne peut plus me blesser. Cependant, aussitôt, je souffre de voir l'autre, que j'aime, ainsi diminué, réduit et comme exclu du sentiment qu'il a suscité. Je me sens coupable et je me reproche de l'abandonner. Un revirement s'opère. Je cherche à le désannuler. Je m'oblige à souffrir à nouveau.
Quelque part, ailleurs, un homme naît maintenant, émerge d'un sourire dont il fera sa quête comme les autres. Une vie de plus. Que va-t-on lui faire croire? Des statistiques lointaines nous informent qu'il ne faut surtout pas bouleverser nos vies. Mais un jour, s'il fait certains choix, il pourra tout faire basculer. La roue des possibles s'arrête-t-elle sur le point de non-retour? Quelles sont les chances? Faufilerons-nous entre les gouttes? Saurons-nous trouver notre trajectoire? Le corps sait, se rit des apparences et des faux espoirs. En silence.
amarres à l'horizon ponctuent la mélancolie de ce soir opaque. Elle offre un regard cyclopéen à l'engeance magique que les troupeaux d'une voix unique appellent à genoux, de peur de se connaître, de se reconnaître, mais jamais de réponse. Jamais.
C'était Philos Amouron, lecture de discours du fragment amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons vu les chapitres Altération, Angoisse et Annulation. La musique est de Philo, If et Connaissance Cohérence, et la lecture est de Gentiane. La semaine prochaine, à 16, Atopos et Attente. Bonne semaine.